Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre des hommes et des femmes qui font la mode. Qu'ils soient créateurs, entrepreneurs, institutionnels ou influenceurs, je les interviewe pour comprendre leur parcours, leurs problématiques et leurs stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Geoffrey Bruyère, l'un des deux fondateurs de Bonne Gueule. Bonne Gueule est un site français de mode masculine, lancé comme un blog en 2007, devenu marque de vêtements en 2014 et qui s'est donné pour mission d'aider les hommes à se sentir bien dans leurs vêtements. Alors avec Geoffrey, on n'a pas refait toute l'histoire de la marque, mais on parle de plein de sujets très passionnants, comme comment trouver sa niche, comment passer d'info-entrepreneur à entrepreneur, de comment il lancerait Bonne Gueule aujourd'hui, de l'importance d'être profondément différent. On parle de branding, de comment créer du bon contenu et on parle de plein d'autres sujets. J'ai adoré interviewer Geoffrey, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Geoffrey Bruyère de Bonne Gueule. Bonjour Geoffrey.
Bonjour à tous.
Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Alors, je suis un des deux fondateurs de Bonne Gueule.
Ouais.
Bonne Gueule qui a été fondée en 2007 comme un simple blog de mode masculine. Et puis, au fil des années, ça a pivoté plusieurs fois. Et en 2014, on a monté notre propre marque de mode masculine.
Ouais.
À ce moment-là, on parlait pas forcément de DNVB ou de marque digitale, mais sans forcément le savoir, on est devenu ce genre de volatile.
Ouais.
Et donc, l'entreprise a continué à grandir. Et aujourd'hui, on est une petite boîte de 40 personnes qui donc est toujours un média, le premier média de mode masculine en Europe, et qui est aussi une marque de mode masculine qui est distribuée dans nos propres boutiques et sur notre site e-commerce.
Très bien. Est-ce que je peux te demander de reprendre ton parcours depuis tes études supérieures, votre rencontre avec Benoît et l'évolution peut-être assez détaillée mais quand même synthétique, parce que c'est une longue histoire, mais vas-y, à toi de jouer.
Ben, j'ai un parcours qui est assez simple. J'ai grandi en Alsace. J'étais un élève qui s'en sortait correctement sans trop travailler. Du coup, ça me rendait assez fainéant. Et comme j'étais fainéant, je me suis dit, bon, ben, faut que j'aille en classe prépa parce que là, j'aurai un prof pour mettre les coups de cravache.
Ouais.
J'ai fait 2 ans de prépa scientifique et là, j'ai appris le sens du boulot.
Ouais.
Et puis, je suis passé en école de commerce parce que je voulais pas trop m'enfermer dans une discipline, être uniquement ingénieur. J'avais besoin de toucher à tout. L'école de commerce, ça a été la révélation. J'ai découvert que j'étais bien plus épanoui dans le marketing, la stratégie. Ça m'a éclaté. Benoît, il a un peu le même genre de parcours. Lui vient de Tours. Lui aussi, il a des parents qui viennent pas du tout de la mode. Il est pas du tout entrepreneur non plus. Et on s'est retrouvé un moment dans la même école. Donc l'INT Management, maintenant ça s'appelle Télécom Sud Paris. Et ce qui est drôle en fait, c'est qu'on n'était pas du tout de la même promo, donc on s'est jamais rencontrés. Par contre, on avait tous les deux un blog de mode. Et puis un jour, j'ouvre ma boîte mail de Facebook, mon Messenger, et puis je vois un email de Benoît Vauchanka et qui me dit qu'il est un des fondateurs de Bonne Gueule. Moi, mon blog, il s'appelait Toga Picta. Et là, je me dis, mais c'est fou, il a fait la même école que moi. Lui, il m'avait repéré parce qu'il avait vu que j'avais mon CV en ligne, cherchais du taf. Et on s'est rencontrés, on a mangé au self de l'école. Ben, c'est pas quelqu'un d'ultra expressif sur son visage, donc j'avais l'impression qu'il s'emmerdait un petit peu.
Ouais.
Et puis finalement, après, il m'a invité à une soirée, et puis on s'est revu plusieurs fois. Et en fait, on est devenus super copains. Et assez rapidement, on s'est mis à écrire un e-book ensemble, parce que nos lecteurs respectifs sur nos deux blogs nous en demandaient un. Jusqu'au moment où on s'est dit, bon, ben, tant qu'à faire, autant fusionner nos efforts, fusionner les sites, tout faire ensemble. Et là, on s'est mis tous les deux dans l'aventure Bonne Gueule. C'était en 2011. Et puis après, voilà, il y a toutes les étapes difficiles. Et, mais ce qui est important, c'est qu'on est resté copains aussi.
Ouais, vous êtes resté copains. Mais vous aviez commencé vos blogs combien de temps avant le premier book?
Les blogs, c'est 2007. Moi, je l'ai monté en 2008 ou 2009, le mien. On se rencontre en 2011, on fait l'e-book. 2012, on fait des collaborations de vêtements avec des marques parce que on voulait sortir des vêtements aussi, mais on savait pas comment faire. 2014, la marque de vêtements. 2015, la première boutique. 2016, je crois, la levée de fonds. Puis après, il y a eu deux boutiques. Et aujourd'hui, on s'apprête un peu à faire ce qu'on appelle l'accélération.
D'accord. Moi, il y a un truc qui m'épate toujours, parce que j'ai rematé tous vos vidéos, tous vos podcasts, etc. Et quand vous êtes tous les deux ensemble, et notamment sur des vidéos d'Olivier Roland, c'est qu'il y a une complicité entre vous et un profond respect. Et ça me fait vraiment, enfin, ça m'impressionne énormément. Et c'est surjoué, ça, ou c'est vraiment,
non.
C'est vraiment sincère et.
Non, je pense que le mot, il est pas trop fort, mais j'ai vraiment beaucoup d'amour, quoi, pour Benoît, parce que c'est quelqu'un qui m'a fait confiance, qui m'a toujours fait confiance. C'est quelqu'un, qui a toujours été extra, c'est un bonhomme qui a des valeurs irréprochables, quoi. Après, il a tous ses petits défauts aussi, qui parfois, qui à une époque m'agaçaient un petit peu. Et puis maintenant, je me dis, bon, bah, ça me fait plutôt rigoler. On est un peu comme un vieux couple, tu sais.
Ouais.
C'est un peu, t'as pas sorti le fromage, les invités arrivent. Et nous, c'est pareil. À chaque fois qu'on s'engueule, c'est sur des trucs trop bêtes. Genre, non, la couleur, elle s'appelle pas bleu pan, elle s'appelle bleu turquoise. Enfin, c'est des trucs ridicules. Et puis à chaque fois, au bout d'une minute ou deux, on en rigole. Puis nos copines se connaissent, on arrive encore à faire des choses ensemble à
hors,
côté.
Hors boulot,
quand tu vois quelqu'un tous les jours, c'est pas toujours évident d'avoir le réflexe de dire bon ben je vais la revoir après dans la soirée, faire un dîner.
Ouais.
Et puis Ben c'est aussi un mec qui a une grosse profondeur. Du coup à chaque fois que on passe des moments tous les deux dans des voyages, par exemple on était au Japon pour rencontrer nos fabricants pour la première fois il y a un an et demi.
Ouais.
Que du coup, je continue à découvrir des choses sur lui. Il continue à vachement évoluer. Et donc, ouais, il y a un respect et une forme d'admiration. Je pense que c'est pour ça que ça colle bien entre nous.
Trop bien. Vous venez vraiment alors de l'info-entrepreneuriat. À l'époque, quand vous aviez votre blog, quand vous avez lancé vos blogs, moi, je me pose toujours la question à trouver sa niche. Aujourd'hui, à l'époque, vous n'y avait pas beaucoup de blogs sur la mode masculine. Il y en avait quelques-uns, mais en tout cas, vous avez trouvé votre niche assez rapidement. Mais comment on trouve sa niche? Même si c'est un truc dont on parle, c'est il y a 11 ans en arrière.
Je me dis que, à l'époque, la mode masculine sur Internet, finalement, c'était une niche. Et avoir un blog sur la mode masculine en 2007, c'était vraiment un gros truc de nerd. Aujourd'hui, c'est presque stylé, quoi, si t'as ton blog de mode, que tu parles et que tu fais de l'audience, ou alors ta chaîne YouTube. Mais à l'époque, c'était presque quelque chose que t'avais tendance à cacher, parce que les filles, elles se demandaient, pourquoi il fait ça? Il a un désir de représentation, il veut briller. Les gens dans la boîte de conseil où j'ai commencé ma carrière, il y en avait, ça les faisait aussi un petit peu sourire, quoi. Ils avaient l'impression que c'est comme si j'enregistrais des vidéos dans ma chambre, quoi, tu vois. Un peu truc de teen, d'ado. Donc c'est peut-être ça, en fait, trouver sa niche, c'est de trouver le truc que personne veut faire parce que socialement, c'est pas accepté. Et ça me fait penser, en fait, à cette théorie aussi qu'ont beaucoup d'investisseurs sur le fait d'être contrariens. Les investisseurs, souvent, ils ont une matrice, en fait, dans leur tête où ils se disent, voilà, il y a deux critères pour qu'un business fonctionne. C'est que l'entrepreneur, il ait raison, là où le marché a tort. Et en gros, ça veut dire qu'il faut que tu aies raison, là où tout le monde pense que ton idée elle est pourrie, naze et va jamais marcher. Et ce qui leur importe, c'est que l'entrepreneur ait raison, mais ils veulent surtout pas que le marché ait raison aussi. Parce qu'un marché qui a raison, là où l'entrepreneur a raison, ça veut dire les cigarettes électroniques, quoi. Tu te retrouves à monter ton business, mais tout le monde l'a vu, ce business. Donc en fait, tu as une méga concurrence, et à un moment, tes marges, elles s'amenuisent, et à un moment, ton business, il ferme. Alors que si tu montes quand tout le monde croit que tu fais un truc pourri, eh ben il y a personne qui va en fait se positionner sur ton business avant très très tard, et ça te laissera le temps de bâtir une marque forte, une technologie, de prendre des positions SEO, dans notre cas de bâtir un média, de bâtir une relation avec 4 millions de personnes. Et les nouveaux entrants, en fait ils vont galérer, en fait, ça, pour l'avoir, ça va leur prendre beaucoup plus de temps. Ça va les forcer aussi à attaquer le marché sous des angles qui sont pas les plus intéressants. Par exemple, d'aller essayer d'attaquer en essayant de faire des marges plus basses, là où toi, tu as déjà des économies d'échelle. Et en fait, ça va les user, quoi. Là où toi, tu continues à grandir parce que t'as passé ces étapes de croissance. Mmh. Donc, ouais, les trucs de nerd, souvent, c'est plutôt cool,
c'est
quoi.
C'est des bonnes niches pour commencer.
Ouais, et puis ça te permet d'avancer un petit peu masqué, quoi.
Mmh. Et donc, quand je disais que vous venez de l'info-entrepreneuriat, l'info-entrepreneuriat, est-ce que tu peux nous donner une définition de ce que c'est? C'était quoi les modèles économiques à l'époque? Et comment vous êtes passé d'info-entrepreneur à start-upper et comment vous avez changé de mindset?
Ouais. En fait, à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, parce que c'était quand même il y a plus de 10 ans, ouais. Ben il y avait l'apparition des premières liseuses,
Kindle,
voilà. Et avec l'apparition de ces nouveaux supports, la démocratisation aussi des sites de partage, les torrents, les Napster avant ça, et ben il y a eu toute une ouverture en fait pour l'échange de biens culturels et ça crée une demande. Et comme en fait l'internet il était encore assez peu mature à l'époque, sur plein de niches, il n'y avait pas encore du contenu. Du coup, les gens étaient prêts à payer plutôt cher pour avoir accès à des contenus de niche. Par exemple, ben la mode masculine, il y avait rien avant très longtemps. Il y a Comme un camion qui s'est monté en 2005, nous en 2007. Mais il n'y avait pas encore énormément de contenu sur nos sites respectifs. Donc du coup, il y avait une vraie attente du marché pour avoir un vrai e-book qui mettait de la profondeur sur le sujet. Mmh. Et si quelqu'un voulait apprendre à s'habiller en fait en 2007, la seule alternative qu'il avait par rapport à cet e-book, c'était des Dressing the Man ou des trucs comme ça, des vieux livres anglo-saxons qui remontaient à 20 ans. Et quand tu allais franchement dans les pages casual, ça ne donnait pas envie de t'habiller comme ça. Hein. Tu allais ressembler à un golfeur des années 70, quoi. Mmh. Donc ouais, il y a eu ce phénomène en fait dans quasiment toutes les niches. Nous, par exemple, on a un très bon copain qui s'appelle Laurent Breillat qui a fait apprendre la photo et des histoires comme ça. Il y en a plein qui datent de cette époque. Aux US, sur un marché plus gros, ben les niches parfois elles sont encore plus profondes, quoi. Par exemple, il y avait plein d'e-books à l'époque sur comment survivre en prison, comment éduquer ton perroquet pour lui apprendre à parler. Et des trucs aussi cons que éduquer son perroquet, ben, sur un marché de 260 millions de personnes qui étaient en dèche de contenu de qualité, et ben, ça pouvait faire des histoires à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et puis, comme ensuite le marché il a commencé à être très rempli par tous les gens qui se positionnaient avec des e-books, et ben, le produit s'est retrouvé banalisé. D'autant plus vite qu'il y avait tous ces sites de partage gratuits de torrents, tout piratage. Du coup, les marketeurs qui faisaient des produits d'information, ils ont dû se mettre à faire des produits un peu plus évolués. Donc, c'est l'émergence des MOOC, ou alors des gens qui vendaient par-dessus des conseils ou des sessions de coaching personnalisées par Skype. Nous, on avait aussi un petit peu essayé ça. On avait monté notre propre MOOC. On en avait vendu 40 000 euros tous les 6 mois pendant 2 ans, donc c'était plutôt cool, ça nous a permis de lancer le business et d'avoir de l'argent à investir dans les premiers stocks, et donc de pas faire de levée avant bien plus tard. Et puis le marché, il a continué à se complexifier, parce que bah, même les MOOC, ça devenait quelque chose de banalisé. T'avais de plus en plus de personnes qui avaient du contenu de bonne qualité, parfois même gratuit, maintenant c'est ce qu'on fait avec la chaîne YouTube. Et donc, il y a un moment, on s'est dit, bon, ben, la vente de contenu, ça va pas durer éternellement. On se l'est dit quand même assez vite. Ça a été quelque chose d'assez lucide, finalement. Je suis content qu'on ait fait ce mouvement suffisamment tôt. Et ça nous a permis très vite de se dire, bon, ben, faut qu'on fasse du produit physique, quoi. Faut qu'on apporte de la valeur plus concrète, perceptible.
Et qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille à l'époque? Raconte-nous peut-être cette anecdote des premiers jeans que vous avez vendus.
Ouais. Ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est qu'on voyait que à chaque nouveau lancement, ça générait moins de revenus, il fallait donner plus de valeur, quoi. Donc on s'est dit, voilà.
C'est si pas éternel cette histoire. Hein.
Si on trace la courbe qui suit un peu le nuage de points, on arrive à un endroit qui est pas ultra sympathique. Mais le point positif, c'est qu'on avait déjà appris deux choses à ce moment-là. La première, c'est que quand t'apportes de la valeur à une communauté sans rien lui demander en retour depuis des années, et ben en fait les gens ils te font confiance, ils ont envie que tu réussisses, et du coup il suffit que tu aies quelque chose à leur proposer qui colle à leurs besoins et ils vont l'acheter chez toi. Et c'est ce qui s'est passé avec le lancement du premier ebook. Et ensuite on s'est rendu compte que les gens ben, avec le programme vidéo, ils étaient encore hyper en attente en fait de contenu sur les marques. Ils n'arrivaient toujours pas à trier les bonnes marques de celles qui trichent sur la qualité et sur les marges démesurées. Et que finalement, quand tu leur apportes beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos, eh ben, ils sont prêts à payer un prix important. Et quand on a lancé notre jean, on leur avait apporté tellement d'informations sur comment il est fabriqué, pourquoi le Japon. On a shooté dans les parcs nationaux, donc ils avaient toute l'info sur l'histoire du jean. Ils avaient toute l'info sur nous, notre petit parcours, notre petit cheminement de jeunes entrepreneurs. Et à la fin, ça leur donnait vraiment tout le 360 degrés autour du produit, que le prix, c'était plus une question, parce que on l'avait tellement justifié, on l'avait tellement prouvé avec du contenu, que bah, il suffisait de proposer le produit pour qu'il se vende à partir du moment où, bien sûr, ça devait être un prix raisonnable et en rapport avec ce qui avait été expliqué. Et comme on a vendu en fait ces 150 premiers jeans en 48 heures alors qu'on pensait les vendre sur un an, on s'est dit waouh, il y a un truc à faire. Et c'est là qu'on a commencé à faire de plus en plus de vêtements et de moins en moins de ventes de contenu. Et puis ça nous excitait aussi vachement plus d'avoir nos vêtements à nous, quoi, de créer les vêtements que tu portes pour, ouais, un passionné de mode, c'est un énorme kiff, évidemment. Bah
ouais. Et c'était quelque chose qui vous avait effleuré l'esprit avant, enfin au tout début, quand vous étiez encore étudiant, quand vous montiez votre blog? Est-ce qu'un jour, dans vos rêves les plus fous, vous disiez peut-être qu'on montera une marque vraiment de fringues, de mode?
Ouais, c'était un rêve, mais en fait on n'y croyait pas vraiment. Parce que les gens qui montaient des marques de mode autour de nous, des gens comme nous, on connaissait beaucoup à l'époque, Mathieu de Ménonville, de Melinda Gloss, qui est d'une édition MR, et Rémi La Quintane. On connaissait beaucoup aussi un mec génial qui a monté une boîte qui s'appelle Marchand de Rapier, qui s'appelle Benoît Carpentier. La marque, hélas, n'existe plus, mais je crois que Benoît est toujours bien en forme. et ces gens-là, en fait, c'était des gens trop cool. Et nous, on se percevait pas du tout comme des mecs cool. On
avait un plutôt... peu hype, tu veux dire, qui, ouais, était vraiment de la mode.
Non, nous, on est des geeks, quoi, ouais, tu vois, à l'époque, et encore geek à l'époque, on était plutôt nerd. Et on se disait, la mode, c'est les gens cool, et la vente de contenu, c'est les gens nerd. Donc, du coup, monter une marque, on se disait, ouais, on kifferait bien, mais qui voudrait nous acheter un vêtement alors qu'on n'est pas des mecs cool? Et puis, on a quand même testé, et on a eu tort de penser qu'on pouvait pas avoir un succès assez instantané et assez phénoménal, quoi. Vendre 42 000 euros en deux heures, à l'époque où le e-commerce était encore balbutiant sur le vêtement, c'était une performance qui n'était pas prévisible, quoi. On s'y attendait vraiment pas, même pas le quart de ça, quoi. On s'y attendait. Et ouais, c'est du coup, c'est pas du tout quelque chose qu'on se disait, hein.
Ouais, de monter une marque, ouais.
Non, mais par contre, on a toujours fonctionné pas à pas en se disant c'est quoi le choix logique suivant. Et en ayant toujours cette étoile du Nord, de se dire qu'est-ce qui apporte de la valeur dans la durée à notre communauté. Et en ayant du coup ce pragmatisme et cet alignement avec la communauté, ça nous a permis de durer et de toujours faire des choix qui
étaient cohérents,
qu'on est encore là et qu'on a bien grandi.
Ouais. Si vous deviez recommencer, bonne gueule, je pense que c'est un truc qu'on vous demande souvent, mais comment vous le feriez? Vous le feriez pareil ou pas du tout?
Ben, bonne gueule, on le ferait totalement différemment.
Ouais.
Parce que les attentes des gens ont changé, les canaux, ils ont changé. Aujourd'hui, à une époque, en fait, quand on montait une communauté, on créait un forum. Nous, c'est de cette époque-là qu'on vient. On avait un des premiers forums de mode aussi, qui était bien plus actif même que l'audience du blog à certains moments. Puis ensuite, on crée un blog, et aujourd'hui, on crée quoi? On crée une chaîne YouTube, on crée un flux Snap. Donc déjà, le canal aussi changerait totalement. Et puis aussi, le marché, c'est plus le même. Aujourd'hui, il y a une profusion de marques de mode.
Mais à l'époque, elle n'était pas aussi violente, la profusion?
Non, il y avait très peu de monde. Quand on a commencé à monter notre marque, il y avait peut-être 2-3 marques qui commençaient à correspondre à ce qu'aujourd'hui on appelle les DNVB. Il y avait Ast au même moment, il y avait Balibaris au même moment, mais qui a muté vers un modèle différent, quoi, qui est plus un modèle à la Sandro qu'un modèle de DNVB. Il y avait Édition MR et Ami.
Ouais.
C'est pas grand monde, quoi.
Ouais, c'était les gros acteurs, mais il y avait pas plein de petits acteurs qui
essayaient de grossir. Aujourd'hui, toutes ces marques qu'on pop up après avoir fait quelques Kickstarter ou quelques projets sur Ulule, qui sont positionnés sur du monoproduit, Il y a un déferlement en fait de jeunes marques qui arrivent. Et au final, la difficulté aujourd'hui, c'est plus de créer sa marque, c'est de la scaler, quoi, de la faire grandir, de la faire passer de 500 000 à 5 millions. Mmh. Ça, c'est vraiment difficile aujourd'hui. Et je trouve qu'une manière d'y arriver aussi, c'est pas de copier en fait ce qui a fonctionné. Maintenant, j'ai l'impression que la plupart des marques qui se lancent, elles se calquent en fait sur un modèle qui a fonctionné. On compte par exemple pas le nombre de projets qui reprennent la charte graphique du slip français, quoi. Ouais. C'est de la folie. Mmh. Et nous, c'est un peu pareil sur la structure de nos pages de vente, le ton et l'explication des détails. Mmh. Et le paradoxe, en fait, c'est que ça marche, mais faut pas le faire parce qu'en fait, ça marche sur du court terme. Ça marche dans un marché où il y a encore un tout petit peu de place, un tout petit peu d'air. Mmh. Et c'est précisément parce que ça marche qu'en fait, ces business en fait vont avoir du mal à grandir parce qu'ils n'auront pas développé un ADN fort. Ils auront copié un petit peu l'ADN d'un autre, comme par exemple le slip français. Et quand ensuite il y aura 10 business qui feront tous le même ADN, eh ben le consommateur il sera perdu, ça l'excitera plus. Ce sera pas un signe de différenciation, ce sera juste du mimétisme. Mmh. Là où les vrais innovateurs comme des mecs comme Guillaume Gibault, ben ils seront déjà par contre passés à autre chose et c'est déjà un peu le cas aujourd'hui, quoi.
Ouais. Mais comment on trouve son white space dans un marché qui est aussi saturé que la mode masculine ou est encore pire féminine?
Bah faut être curieux, il faut aller voir plein de choses qui ont rien à voir avec la mode. Hein. Faut avoir en tête peut-être si on veut créer une marque de mode, voilà le fait de faire des vêtements, mais faut aller chercher des communautés qui sont pas adressées, aller voir qu'est-ce que consomment les sous-cultures, qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays, qu'est-ce que c'est les petites tendances de fond que des mecs chelous vont se mettre à discuter sur les forums. Et nous, en fait, c'est ça qu'on a fait, et le slip français aussi, c'était un pionnier sur le Made in France. C'était pas tellement encore trop un sujet société, c'était bien avant les Arnaud Montebourg en marinière avec le mixeur et tout ça.
Ouais, c'est clair.
C'était aussi des trucs un peu de nerd, quoi. Les sujets éthiques, on s'imaginait plus des mecs qui ressemblaient à Manu Chao que des Guillaume Gibault habillés en casual chic, quoi.
Ouais.
Donc ouais, laisser de la place à la découverte impromptue. Je sais plus le mot, mais c'est la sérépendité. Sérépendité, je sais pas
ouais,
dire,
ça,
désolé.
C'est un truc comme ça.
Mais ouais, faut laisser de la place à ça.
Ouais, ouais. Et vous, votre étude de marché, en fait, vous n'avez pas vraiment fait d'étude de marché. Ça s'est fait vraiment en mode lean startup. Vous avez testé plein de choses et
ouais, totalement.
Et à aucun moment vous êtes dit, à aucun moment vous êtes dit, on va remplir des tableaux, on va aller interroger un maximum de gens autour de nous, etc. Ça s'est vraiment fait très naturellement. Enfin, le feedback, en fait, il venait automatiquement parce que vous étiez un média d'abord.
On était nous-mêmes le consommateur de ce qu'on vendait.
Ouais.
On est toujours une marque hyper incarnée où les gens peuvent nous poser toutes les questions qu'ils veulent. On répond à plein de questions en tant que fondateur. Donc en fait, on a constamment de l'étude de marché, de l'étude quali qui
vient à vous,
vient de chaque discussion, de chaque rencontre qu'on fait. Parfois, on prend le train, on croise un lecteur, il s'assoit à côté de nous, il ose pas trop, et puis ensuite, il y a une conversion qui s'engage et c'est à la fois super agréable et super instructif. Du coup, on n'avait pas besoin de faire ça au début. Par contre, on fait quand même pas mal d'études quanti et quali aujourd'hui de manière plus structurée parce que ça nous permet de pointer nos points faibles. Et ça, c'est important parce que quand on est à l'aube en fait de la phase vraiment d'accélération, le fait de se dire bon, ben on veut devenir une marque un petit peu majeure sur notre marché français ou européen. Il faut que tout soit affûté et tout soit aligné. Si tu fais 90% de ton taf de marque, à savoir des vêtements beaux et solides, un branding bon élève, des boutiques avec une expérience qui plaît, mais pareil, qui est bon élève, eh ben, t'as un résultat qui est bon. Mais les 10% qui te manquent, le fait d'avoir vraiment de l'aspérité, d'exprimer à donf ton ADN, d'avoir du wow effect à chaque point de contact, à chaque moment avec le client, et ben ça, en fait, ces 10% qui manquent, c'est là que tu as un succès qui passe du du bon succès au succès démesuré, quoi, de business comme Glossier, comme Bonobo, comme je sais pas, il y en a plein aussi, des success stories en France, ouais. Des Officines Bully, des Maisons du Monde, bon, c'est belge, mais il y en a aussi beaucoup en France, Le Pain Quotidien. Tu vois, il y a un branding, en fait, qui est ouvragé jusqu'au bout. Et ce truc, on l'a pas encore totalement craqué. Et c'est ce qu'on est en train de bosser. Et c'est aussi pour ça qu'il faut pas chercher à copier des business, mais faut creuser
vraiment différent
profondément, ouais, pour faire émerger des choses vraiment singulières. Ouais.
Quand tu parles d'études quantiques, Ali, etc., c'est quoi les outils concrètement pour quelqu'un qui n'est pas du marketing?
Alors, les outils sont vraiment tout cons, hein. C'est tu prends 6 personnes qui représentent un peu le
panel, ouais.
le mec type à qui tu t'adresses, tu les vois un à un en leur posant les mêmes questions, tu essaies de regarder qu'est-ce que c'est les propos qui se dégagent,
ouais.
Les besoins, les attentes, pas hésiter aussi à aller chercher la petite bête, quoi, parce que si on le laisse parler le bonhomme et qu'il est sympa, il va nous dire que du bien, mais faut aller un peu le titiller, faut lui dire mais qu'est-ce qui fait que t'aurais presque pas été client chez Bungle? Ou qu'est-ce que tu détestes chez nous? Ou qu'est-ce qui peut t'énerver dans notre communication ou dans notre produit? Ou qu'est-ce qu'on devrait vraiment changer?
Mais ça, c'est vous qui les menez?
Faut tendre le bâton pour se faire battre, quoi.
Ouais.
Ouais, ça, on les mène. Et là, on a une. On a une mission aussi en ce moment avec une consultante qui s'appelle Priscille, qui a beaucoup bossé aussi avec nos amis de Horace ou avec d'autres marques, avec les mecs de Big Mama aussi.
D'accord, trop cool.
Et c'est hyper éclairant de l'avoir parce qu'elle, c'est vraiment une experte branding, là où nous, on est des entrepreneurs avant d'être des experts de quelque chose, on est des généralistes.
Ouais.
Et ensuite, le quanti, ben, c'est tout con aussi. Hein, tu prends un Google Form ou bien un Typeform si tu as un peu de budget pour faire un truc joli et puis tu le diffuses à ta base. Et après, il y a quelques trucs à comprendre pour pas créer des biais statistiques. Par exemple, faut toujours te demander à qui tu l'envoies. Par exemple, le biais statistique le plus évident, mais dans lequel beaucoup de gens qui débutent tombent, c'est de poser les questions d'études de marché aux gens qui connaissent. Donc forcément, ils auront des réponses gentilles ou accommodantes. Mmh. Faut aller chercher des gens très différents et toujours se demander qu'est-ce qui fait que mon enseignement il serait pas bon, quoi. Qu'est-ce qui peut influencer en mal les personnes que j'ai en face de moi.
Je vais me creuser un peu sur le branding. Donne-nous peut-être une définition de ce que c'est que le branding pour des novices, enfin des gens qui débutent. Et la deuxième question, c'est... Non, je te laisse répondre à cette question. Je te poserai une autre question derrière, pardon.
Alors, j'ai pas forcément une définition ultra académique, mais pour moi, le branding, c'est toutes les choses qui, à la fin, forgent la personnalité de ta marque aux yeux des clients. Donc... comment tu t'adresses à une personne qui rentre dans ta boutique, qu'est-ce que c'est les premiers mots que tu lui dis, quelle est ta posture, où c'est que tu te situes dans la boutique, c'est déjà du branding parce que ça sous-communique déjà des choses. Y a une différence totale entre le mec qui t'ouvre la porte et qui te demande qu'est-ce que tu cherches et l'autre qui est visible si tu as besoin de lui, mais reste discret et attend que tu le sollicites ou de te sentir perdu parce que tu jettes des regards partout pour venir vers toi. Ça veut dire deux choses totalement différentes sur les marques. Il y en a une, elle est là pour faire de la thune. Et l'autre, elle est là pour créer une expérience en espérant que, en t'offrant de la valeur, il y a un moment, elle est aussi un retour. Chaque élément, évidemment, de la communication visuelle, voilà, c'en est un. Mais il n'y a vraiment pas que ça. Il y a aussi... quels soins tu vas mettre dans ton packaging, comment tu vas traiter les gens qui font un retour, en combien de temps tu vas les traiter. Quelque part, tout ça, c'est du branding, quoi.
Mais ça, c'est du branding.
C'est pas que de la logistique ou que de l'expérience ou que du retail.
Bien sûr. Mais ça, c'était avant que vous fassiez appel à une spécialiste, c'était le branding, c'était vous. Enfin, la marque est tellement incarnée par toi et Benoît que c'était la marque Bungle, c'était vos personnalités à vous. Donc ce côté bienveillant, pédago, etc. C'était pour moi, c'est ça Bungle, mais c'est vraiment vous.
Ouais.
Et aujourd'hui, dans quelle mesure ça change, enfin, comment elle vous amène à changer et enfin à évoluer et à devenir vraiment une marque surpuissante?
Elle nous aide en fait à dépasser notre personnalité. Bungle, c'est énormément de gentillesse, de soins, de bienveillance pour le client, Parce que Benoît et moi, c'est quelque chose qu'on n'a pas trouvé quand on a fait nos premiers pas en tant que consommateur dans la mode. On a trouvé plutôt des vendeurs que des experts qui aimaient partager, ou alors des plieurs de t-shirts dans la fast fashion. Mais jamais on nous a pris par la main, jamais on nous a expliqué. Du coup, on a créé la marque qui, pour nous, bouchait ce qui manquait au marché, quoi, qui répondait à ce manque. Le marché, il a évolué, la marque, elle a maturé. Aujourd'hui, être simplement gentil et bienveillant et avoir des beaux produits, c'est pas suffisant. Faut qu'on se dépasse. Faut qu'on mette un peu plus de poils à gratter, qu'on trouve des détails plus singuliers, qu'on ait un propos un petit peu plus mode. Alors que pour nous, longtemps, la mode, ça a été un gros mot. Nous, on parlait plus de style. Ce qu'on aimait, c'était l'intemporalité, c'était l'élégance classique. Et pourtant, ce qui va nous faire grandir, c'est de garder ça, mais aussi d'y rajouter la petite pincée de magie, quoi. Et donc, elle nous aide à identifier ses manques, à dépasser certaines croyances limitantes. Et même parfois à se dire, ben, tiens, est-ce qu'on devrait pas recruter quelqu'un qui pense radicalement à l'opposé de nous sur un point précis? Il s'agit surtout pas, par contre, de balayer notre héritage et notre manière de penser. Il s'agit plutôt de trouver le complémentaire, quoi.
Mais ça, c'est vraiment, enfin, c'est ce qui va vous faire passer de la PME à vraiment une très grosse marque qui va vous permettre de devenir très gros, quoi.
C'est un des éléments, quoi.
Ouais, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même une croissance qui est quand même pas dégueu, quoi. Je veux dire, vous avez pas du tout à rougir.
Non, on a encore réussi à faire à peu près 50% de croissance en 2018 et on pense qu'on a tout ce qu'il faut pour accélérer là sur l'exercice qui a déjà démarré. Mais on est dans une situation où la croissance, elle est hyper importante parce que si on veut impacter encore plus en profondeur le marché, expliquer encore à plus de gens comment consommer moins mais mieux, les sensibiliser à vraiment aux conséquences de leur choix en tant que consommateur, tout en leur amenant une offre kiffante, élégante, dans laquelle ils se sentent bien, ben, ça suppose une taille. Et l'autre élément qui fait que c'est important de grandir, c'est que comme il y a de plus en plus de concurrence, parfois avec des business très très bien financés, par exemple, voilà, Cézanne, ils ont injecté énormément d'argent dans une marque masculine qu'ils ont montée. Ils sont allés, le premier truc qu'ils ont fait, c'était de nous débaucher le chef de produit. Bah, face à des gens comme ça, tu restes pas les bras croisés, quoi. Tu grandis. C'est la seule chose qui te protège, c'est de grandir. Sinon, à un moment, tu te retrouves dans une situation où, quand quelqu'un te dit, te découvre, il te dit, ah ouais, je vois en fait ce que fait Bonne Gueule. C'est un petit peu comme Octobre. Et en fait, je lui ai dit, bah non, c'est pas Bonne Gueule qui est comme Octobre. Nous, on est là depuis 11 ans et l'ADN est une partie des trucs qu'on a créés. Aujourd'hui, certains sont devenus des standards. Et il n'y a rien de pire, je trouve, que tu vois, de se retrouver un peu le sitting duck, comme disent les anglo-saxons, qui n'a pas voulu trop grandir, qui a voulu rester un peu dans son coin, mignon, avec ses clients, bien gentillet. Et à un moment de se faire balayer parce qu'un acteur est devenu très gros. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à grandir. C'est une condition de survie et c'est une condition de continuer à servir le mieux possible les consommateurs et de changer ce marché qu'on aime, quoi, mais qu'on veut voir bouger.
Vous avez commencé comme un média et vous êtes encore considéré. Enfin, vous êtes encore un média puis une marque. Comment on fait du bon contenu? Parce que, enfin, vous, le contenu que vous faites, il est ouf, quoi. Enfin, moi, je suis toujours étonné, épaté. Je trouve que c'est surpuissant et ça. Il y a plein de questions que j'ai envie de te poser sur le contenu, mais comment tu fais du bon contenu? Qu'est-ce que ça coûte de faire du contenu? Je me rappelle dans un des épisodes que j'ai entendu, Benoît disait, et quand les marques viennent le voir. Les gens demandent souvent la recette magique, c'est quoi? Il dit, bah, il faut faire du très bon contenu, il faut passer du temps sur le contenu, etc. Parle-nous de tout ça.
Alors, faire du bon contenu, c'est comme faire une bonne expérience, une bonne marque ou des bons produits. Il y a pas de raccourci, en fait. Faire du bon contenu, c'est de la passion. Si t'as quelqu'un qui écrit un truc sur lequel ça le laisse de marbre, ben, il va pas se défoncer pour aller chercher toute l'info, trouver les bons experts, les interviewer, aller débusquer des éléments d'info qui n'ont pas encore été traités sur Internet, mais qui sont encore bloquer, agréger dans des personnes ou dans des organisations. Donc, faut aller faire ce travail un petit peu de chasse. Ça peut aussi vouloir dire déterrer des vieux ouvrages. Souvent, il y a des perles quand on ouvre des livres papier. C'est ce vieux truc qu'on a complètement oublié de faire, mais il y a des bibles qui existent sur la mode masculine et personne prend la peine de les ouvrir. Et ensuite, c'est de laisser du temps aux gens parce que c'est un acte créatif. Et tout ce qui relève de la création, c'est pas les mêmes muscles que ce qui relève du travail de raison. Faire du tableur Excel, on peut en faire 8-9 heures par jour. Faire quelque chose de créatif, ça, au bout de 2-3 heures, on est très vite vidé. Donc, on ne peut pas mettre la pression en fait, sur des créatifs comme on pourrait la mettre dans une usine de fabrication de saucisses à la chaîne. Quoi, ouais. Tu vois.
Et vous, au début, le contenu, c'est vous qui le faisiez. Vous faisiez tout forcément sur vos blogs personnels.
Ouais.
Vous continuez à le faire et à le produire. Ou très rapidement, vous avez sous-traité des gens au fur et à mesure que les années ont avancé.
On fait 95% en interne.
Ouais.
Les seuls éléments qu'on va chercher à l'extérieur, ce sont des domaines où on n'est pas expert. Par exemple, l'horlogerie ou bien le parfum. Et c'est important aussi de le faire en interne parce que tu dois avoir un ton qui est linéaire. Ça doit convoyer de la personnalité, celle de la marque. Et en fait, j'ai l'impression que tout ce que je dis, c'est assez bête, mais finalement, il y a beaucoup de médias qui ne fonctionnent pas comme ça du tout. Par exemple, tous les médias d'articles de buzz et tout, ben, eux, ils sont sur le fonctionnement à la chaîne, quoi. Et finalement, c'est plus le titre de l'article qui va générer des vues, plus que des lecteurs.
Ouais.
Mais il ne va pas y avoir un amour du contenu de qualité. Et l'autre truc aussi, c'est que du contenu, il y en a des quantités phénoménales sur chaque sujet aujourd'hui sur Internet. Sauf qu'il y a une seule place sur Google où t'es premier. Donc faut faire le meilleur contenu à partir du moment où tu le crées. Nous, on a un objectif, c'est que à chaque fois, on met suffisamment d'efforts pour se dire, est-ce que ça peut être un contenu number one ? Oui, non. Et si on voit qu'à un moment, un autre site a un meilleur article que nous sur une thématique qu'on a traitée, on le refond l'article l'année suivante. C'est un jeu où tu joues pas pour être deuxième, quoi, le contenu sur Internet. Oui.
C'est clair. Et toi et Benoît, vous continuez à les écrire ou vous avez une équipe éditoriale qui est grosse ?
On a une équipe édito qui est devenue assez importante.
Ouais.
Il y a deux community managers, mais qui font aussi de la rédaction. Deux rédacteurs. Benoît écrit beaucoup. Et il y a aussi un rédacteur en chef. Il s'appelle Christophe Joly. C'est l'ancien rédacteur chef de LCI et Metro News. Donc lui, il est venu apporter une vraie structure aussi à la production de contenu. Et des réflexes de management, voilà, on est au stade où il faut à la fois conserver ce qui fait notre ADN et nos recettes magiques, et en même temps y apporter une structure pour continuer à grandir. Et c'est clair que c'est un coût, tu vois, d'avoir 6-7 personnes juste sur du contenu qui ne rapporte rien, parce qu'il n'y a pas un seul lien de monétisation sur Bonne Gueule, il n'y a pas une pub, il n'y a que dalle, hein, on touche 0 euro des marques depuis 12 ans. Mais on mise sur la qualité du contenu pour convaincre les gens de notre expertise et développer une relation avec nous qui mène ensuite à l'achat d'un vêtement.
Comment vous faites pour trouver de nouvelles idées en permanence ? Parce que j'ai l'impression que vous avez quand même...
Ah, c'est assez facile.
Ah ouais ?
Ouais, parce qu'en fait, le sujet, il est super riche.
Ouais.
La mode, c'est le vecteur d'énormément de choses. À travers la mode, à travers le vêtement, tu peux parler d'histoire, tu peux parler de culture, tu peux parler de technique... Tu peux parler de chimie en parlant des matières, de la thermorégulation ou des matières techniques tout simplement. Tu peux parler d'un milliard de trucs, quoi. T'as plein de vêtements qui ont été des symboles de certains mouvements. Je sais pas, la chemise Mao, la M65 que tu retrouves dans Taxi Driver. Y a toujours une histoire
c'est
à raconter.
Ouais. Ouais.
En plus, ce qui est génial avec la mode masculine, c'est que il y a rien d'innocent. Chaque détail a un sens. Le moindre détail d'un trench, en fait, il a derrière une utilité fonctionnelle ou alors une symbolique. Et finalement, c'est tellement facile de raconter des histoires. Il faut juste parfois savoir un peu quoi regarder.
Et quand il y a une marque justement qui n'est pas forcément du média et qui vient vous voir et vous dit « moi, j'aimerais faire du contenu, etc. », c'est une barrière à l'entrée de malade mental parce que quand tu te dis si la marque demain elle doit recruter cette personne pour produire du contenu, c'est impossible.
Ouais, après, il n'y a pas forcément besoin de faire beaucoup de contenu pour exister. L'important, c'est de le faire avec du cœur et qu'à chaque fois, de se dire, est-ce que c'est le meilleur de la toile au moment où je l'écris ? Il y a par exemple ce blog que j'adore qui s'appelle White Bat Why.
Ouais, ça c'est une référence dont vous parlez souvent.
Ouais, c'est un mec, il a une UX toute pourrie, une identité visuelle qui est genre les bonhommes, il les fabrique, il les diagramme, il les dessine lui-même avec un crayon, il fait des bonhommes en bâton.
Ouais.
Genre il dessine moins bien que ma petite cousine, quoi, qui a 6 ans. Et n'empêche que quand il écrit, les articles sont tellement fouillés, tellement complets, avec de l'humour, avec un plan, une structure qui les rend agréables à lire. Mmh. Et à la fin de la lecture, t'es tellement éduqué à un sujet où tu commençais pourtant à zéro. Bon, c'est des articles que tu mets 2-3 heures à lire quand même, souvent. Mais par contre, tu les sens pas passer. Mmh. Et après, t'as vraiment toute la vision à 360 d'un sujet comme... je sais pas moi, les énergies vertes, la guerre en Irak, la cryogénisation. Après, bien sûr, t'es pas un expert de la guerre en Irak, mais ça vient remplacer 15-20 heures de digging de contenu que t'aurais fait sur plein de sites avec plein d'infos en double, alors que là, le mec, en 2h30, 3h, il te fait un crash course. Et en fait, des articles, il n'en a pas des masses sur son site. Il doit en avoir, je sais pas, peut-être une centaine. Mm. Mais à chaque fois, c'est les meilleurs de la toile. Tellement bon que, par exemple, pour certains, il y a Elon Musk qui l'a contacté pour venir visiter ses usines et l'interviewer. Parce que le mec, il est dans les étoiles quand il écrit un contenu. Et quand une marque, ben, elle a envie de faire pareil sur son secteur, ben, c'est plus une histoire de passion et de trouver la bonne personne pour l'écrire que de se dire ben, comment je me retrouve demain avec 300 articles de 2000 mots.
Ouais, ça n'a aucun sens.
En plus, l'audience, elle ne sera même pas capable d'ingérer 300 articles. Je veux dire, ce qui fait la richesse d'un site, ce n'est pas seulement la quantité de contenu à l'instant T. Mmh. C'est que chaque article, dans sa temporalité, il a été publié à un moment où l'audience elle a besoin de telle ou telle chose. Et en fait, ça crée une histoire, ça crée une relation avec l'audience, ce que tu publies au fur et à mesure. Mmh. Il y a une espèce de flux de vie quoi, entre les articles. Mmh. Et quand mais faut être proche de son audience, faut être vraiment dans le terrain, dans la curiosité quoi. Mmh.
Tu connais des histoires similaires à Bonne Gueule qui sont vraiment basées sur un média et qui ont évolué à part les copycats hein, mais des
ouais il y en a plein dans plein de secteurs
ouais,
en France.
D'accord.
Au début quand j'allais voir des fonds, souvent au début ils nous comprenaient comme un business purement e-commerce, donc ils allaient nous comparer à des business comme à des marketplaces, comme à l'époque Menlook. Et en fait, ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'on faisait. Et puis à un moment, une fois qu'ils ont compris qu'il y a toute cette relation, cette communauté ancrée autour du contenu, de l'aide, du community management, là, à chaque fois, il y avait un « aha moment » et le mec, il nous disait toujours la même chose en face ou l'investisseuse. Elle nous disait « ah, vous êtes comme pêcheur.com ». Et moi, au début, je me suis dit « mais c'est quoi pêcheur.com ?» Et en fait, plus tard, j'ai rencontré le boss de pêcheur.com. Et en fait, il a eu exactement le même cheminement. À la base, il a monté son forum de pêche à la carpe et de pêche au gros et tout. Et puis par-dessus, il s'est mis à mettre un peu de e-commerce où il vendait des appâts, des lignes, des bouchons, tout ce que tu peux imaginer. Et c'est resté ultra communautaire. Et aujourd'hui, il y a des contenus de ouf quoi, sur pêcheur.com. Sinon, tu as aussi Les Numériques, que j'aime beaucoup. Mmh. C'est un super site pour savoir quoi acheter en télé, en audio, etc. Y a Tendance de Mode, côté mode féminine. Ouais, y en a pas mal des business quand même qui sont montés sur des trucs très contenus.
Sur ce modèle-là.
Ouais. Aux US, ça se développe beaucoup. Hein. T'as des géants qui sont montés là-dessus. T'as House, H-O-U-2-Z, sur la déco. T'as Gwyneth Paltrow qui a monté Goop. Ouais. Glossier, c'est pareil, c'est une histoire de blog, un propos un peu différent sur les cosmétiques et qui s'est imposé parce que le propos était juste et que les articles étaient fouillés.
Ouais, carrément. Ouais.
Le contenu, c'est un truc surpuissant. Hein. Ça t'aide à recruter, ça donne une image de marque, ça fait de la rétention, ça t'aide à améliorer ensuite tes campagnes marketing parce que plutôt que de pointer les gens vers des produits, tu peux les pointer vers des contenus. Mmh. Où du coup la relation avec la marque elle se crée de manière plus fluide et plus durable dans le temps. C'est vraiment une arme surpuissante. Les gens en interne ils sont super fiers aussi de se dire on n'est pas juste une marque qui est là pour shipper du produit. Ouais. On est en plus de faire bien et de mettre de l'âme dans nos produits, on est aussi un média qui traduit un certain bénévolat, une certaine gratuité, quoi. Mmh. Je pense que le média, on pourrait éventuellement le couper un moment et dire, bah tiens, on réinvestit tout cet argent colossal, parce que 6-7 salaires, c'est quand même colossal, dans autre chose. Mais en fait, ça enlèverait tellement un petit côté magique, ça me ferait tellement mal au cœur.
T'enlèves toute l'ADN de la marque.
Ouais, voilà, que ce truc, on doit le garder quand on y tient. C'est un peu notre mission sacrée.
Bon, on vous a déjà donné le conseil de couper le truc? Non, quand même pas.
Ouais, il y a des gens qui comprennent pas, quoi.
Ouais.
Il y a des invests pour qui c'est un coup. Ou il y a des gens qui disent, mais vas-y, ouais. Tartiner en lien d'affiliation, en acquisition, en brand content, le petit mot sympa pour dire article sponsorisé, et puis faites-en un truc sans âme avec de l'article à la chaîne pour taper plus de SEO. Mais en fait, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'en face, on ne s'adresse pas à des bots, on s'adresse à des humains. Mmh.
Vous avez commencé sur du média écrit. Comment vous avez fait évoluer vers de la vidéo, vers du podcast, vers d'autres médias? Et comment tu fais, par quel filtre tu fais passer ce contenu sur des nouveaux canaux? Mmh. Et comment tu fais aussi quand tu sous-traites en interne, mais en tout cas à tes salariés, à ta team, l'ADN de bonne gueule?
Eh ben, il y a toujours une mission en fait qui est comprise profondément par chaque collaborateur, qui est qu'on est un média tourné vers l'aide, la bienveillance, qu'on veut vraiment le bien de la personne avant même de penser à lui vendre un truc. Et ça se ressent dans chaque contenu, et c'est ce qui crée ce fil rouge. Et à côté de ça, il y a du pragmatisme de se dire, c'est où sont les usages aujourd'hui, sur quels canaux. La part croissante du mobile a fait que la vidéo avec des sous-titres en dur dessus, ça s'est imposé comme le nouveau format roi, et donc on s'adapte aussi à ça. Après, on avait déjà des moyens vidéo parce qu'on faisait des vidéos sur nos produits. Donc, du coup, on a pu assez facilement basculer. On avait déjà des expertises multimédia. On a testé aussi certains formats qui n'ont pas fonctionné. Les podcasts, par exemple, ça fonctionne sans fonctionner. Je parle bien sûr dans la mode, hein. Toi, je sais que t'as pas de succès t'as pas de problème de succès avec ton audience. Mmh. Et qu'il y a énormément de personnes qui te suivent. Mais nous, dans notre cas, le podcast, ça se prête un peu moins en fait à la mode. C'est pas visuel, quoi, tu vois. Donc, à force de tester, il y a un moment aussi tu retiens les choses qui fonctionnent. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a encore énormément de formats à inventer, à développer. Ouais. Mm-hmm. Rien que sur la vidéo, il y a tellement de thématiques. En ce moment, on lance des thématiques aussi où on parle un peu plus d'entrepreneuriat et de business. Et à ma grande surprise, ça plaît vachement. Moi, j'ai à chaque fois l'impression de balancer des platitudes parce que c'est mon quotidien, mais en fait, les gens sont assez contents, ils commandent beaucoup. Et du coup, on a envie de tester autre chose aussi avec Benoît. C'est un format où l'objectif, c'est de donner aux gens nos lunettes avec lesquelles on voit le monde. Parce que ces dernières années, ça a été une avance en marche rapide pour nous. C'est allé très vite. On a rencontré énormément de personnes. On est complètement sortis de notre contexte social normal de mecs de 20 ans. On a rencontré des présidents, des grands chefs d'entreprise, des artistes. Et on a, je pense, démystifié pas mal de sujets. Il y a plein de trucs qu'on pense avoir à peu près compris. Et à notre niveau, qui doit rester aussi humble parce qu'on n'est que des jeunes trentenaires, il y a quand même des choses qu'on aimerait transmettre, quoi. Mmh. Les gens, souvent, ce qu'ils aiment aussi chez Benoît, c'est cette espèce de philosophie. Et Benoît, c'est sans doute surtout lui la personne de la philosophie chez Bonne Gueule. Et il y a un côté un peu gourou, mais cool, quoi, qui n'est pas sectaire, qu'on aimerait bien mettre en valeur. Mmh. Et je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est un format qu'on aimerait bien tester.
Vous avez commencé à le tourner, à le produire?
On commence à réfléchir aux différents sujets, ouais.
Ouais. Trop bien, j'ai trop hâte de voir ça. Comment on reste cohérent quand on passe du média à la marque e-commerce, de la marque e-commerce à du physique? Explique-nous ces transitions.
Ben, ça se fait à chaque fois un petit pas devant l'autre, quoi, tu vois. Finalement, on se dit, ouais, passer de la marque au média, c'est un gros pas, mais en fait, il y a eu plein d'étapes intermédiaires.
C'est vrai qu'on voit toujours l'aboutissement, mais on ne se rend pas compte du cheminement.
Ouais, c'est vraiment des petits trucs, c'est des petites réflexions du quotidien qui mises bout à bout, à un moment, forment l'image d'une marque, et puis là, tu décides d'y aller. Et comme à chaque fois, tout ce qu'on fait, ben, il y a la même philosophie qui est derrière, parce que la chance de Bonne Gueule, c'est que c'est une entreprise où c'est encore des founders aux commandes. Quand t'as un management, quand t'as un directeur général qui est un salarié et qui est pas un founder, ben, t'as un peu plus de turnover, quoi. Cette personne va peut-être partir vers un nouvel horizon dans 3 ans, dans 4 ans. Et donc, du coup, ben, t'as un changement de philosophie, un changement de mentalité, tout dans la tête, dans le cœur de l'entreprise. Et les business de founders, ben, des business comme Patagonia, ils ont ce truc qui perdure dans le temps. Et finalement, ben, quelles que soient les choses qu'ils fassent, ben, c'est à chaque fois le complémentaire qui vient mettre un pas de plus vers une mission, vers un rêve. Et nous, notre rêve, c'est ça, c'est de se dire, ben voilà, on veut un marché qui consomme moins mais mieux, et on veut une mode qui n'est plus quelque chose de sectaire en te montrant des photos de couples qui sont juste les personnes que tu seras jamais, tu vois, en mode affiche couples, mais plutôt la mode comme un pont qui est tendu entre les gens pour que ben il y ait plus le problème de la première impression, mais que tout le monde se fasse confiance, que tout le monde s'exprime, que tout le monde joue, tu vois, avec l'image, avec les vêtements. Et nous, c'est ça, notre objectif, c'est de faire évoluer des mentalités, des modes de consommation. Et chaque chose qu'on fait, ben ça répond à ça. Et à chaque fois, on communique aussi dessus auprès du lectorat ou des clients. Et donc, les gens nous font confiance, nous croient après ces 12 ans, bientôt 13, de track record. Et donc, on a beau, quelque part, faire un grand écart entre un blog et maintenant une marque digitale avec des boutiques. In fine, c'est une seule et même histoire. C'est une histoire de deux mecs qui vivent des trucs et qui les racontent.
Mais c'est vraiment une mission de vie que vous vous êtes donnée de monter Bonne Gueule. Parce que j'imagine qu'il y a eu plein de moments où on vous a proposé de racheter Bonne Gueule, où on vous a proposé de faire autre chose. Comment vous vivez ce truc-là? Enfin, est-ce que c'est clair dans vos têtes de vous dire, OK, on est là pour monter le prochain Patagonia et ça va nous emmener pour les 50 prochaines années, quoi?
Ouais, bah nous on se dit en fait que si toutes les étoiles s'alignent, c'est là-bas qu'on a envie d'aller. C'est envie de monter un Patagonia du casual chic, quoi, tu vois, avec des valeurs un peu différentes. Tu vois, encore une fois, il ne s'agit pas de copier Patagonia, sinon ça ne marcherait pas. Il faut qu'on trouve qu'est-ce qui est au plus profond de Bonne Gueule. Donc ça, c'est le rêve. Après, je sais pas si on a les moyens d'atteindre ces rêves, parce que peut-être qu'un jour, Benoît et moi, on sera les facteurs limitants, et peut-être que pour atteindre notre rêve, il faudra confier le bébé à quelqu'un d'autre, à des gens plus versés dans la stratégie, dans la gestion d'entreprise, dans le développement de marque, que sais-je. Mais si on peut continuer à passer toutes les étapes, on a envie de rester indéfiniment, quoi, dans Bonne Gueule. C'est un morceau de nous, quoi. Je pense que si on nous enlevait Bonne Gueule, si on le vendait ou si ça disparaissait, il y aurait un énorme vide dans nos vies, quoi. C'est tellement un truc identitaire. C'est nous, c'est pas juste une boîte, quoi.
Qu'est-ce que vous feriez si vous faisiez pas ça? Vous vous êtes déjà posé cette question?
Bah, je pense qu'on remonterait des business. Encore une fois, tu vois, avec un truc incarné, quoi, qui nous ressemble. Quand je dis incarné, c'est pas du tout, tu vois, starifié. C'est nous avec nos défauts. C'est plus une proximité, une transparence qu'une mise sur un piédestal. Et sans doute dans des business où on en discutait un petit peu avant, le podcast, ben, peut-être un truc avec plus de barrières à l'entrée et plus de tech. Peut-être aller chercher quelque chose où on s'associe avec un scientifique qui a une idée géniale et qui pourrait sauver le monde, mais qui finalement faudrait arriver à bien la marketer, bien l'expliquer, bien la financer, qui sont des compétences que nous on a. Et ce serait du coup pas forcément dans la mode. Moi je suis un ancien élève ingénieur, donc j'aimerais bien à un moment revenir vers de la chimie, vers de la médecine, vers...
Ouais, vers des trucs vraiment très techniques, quoi. Enfin, ouais. Très techniques, très scientifiques.
Ouais, du moment qu'il y a un sens et qu'on peut y mettre de la profondeur, qu'on continue d'apprendre, c'est quelque chose qui m'exciterait vraiment. Et d'ailleurs, en disant ça, je suis peut-être aussi un peu le... C'est peut-être aussi un des challenges qu'on a aujourd'hui, c'est que tu vois, en étant un peu trop curieux de trop de sujets, bah, y a peut-être un moment aussi où on s'éparpille trop dans la réflexion et on fait un business qui raconte trop de choses à la fois, quoi. C'est là aussi où branding, ça doit être resserré. sur les, l'ADN et les valeurs clés de la marque, mais pas chercher à tout dire tout le temps à tout le monde. Tu vois? Et aujourd'hui, on a un business un peu trop touffu. Peut-être que c'est là qu'on est peut-être limitant si, ouais. si nous-mêmes, on n'arrive pas à évoluer nos moda operandi.
Ouais. Vous canalisez. J'ai ce même problème. Bah, j'ai pas de marque, mais c'est plus personnel.
Bah, t'es aussi un entrepreneur.
Moi, il y a ma marotte en ce moment, c'est la dimension sustainability et je sens bien que c'est important pour vous aussi. Ça serait quoi la marque la plus sustainable du monde?
Je pense que tu veux dire si je devais l'imaginer ou si ouais. je devais citer une marque qui s'en.
Non, si tu devais l'imaginer.
Ben, c'est super compliqué en fait parce que l'éthique, c'est vraiment quelque chose de subjectif. Il y a autant d'éthique qu'il y a de personnes. Mm. Et souvent, quand tu avances dans une dimension éthique, tu recules sur les autres dans la mode. Par exemple, tu te dis, bon, ben, l'éthique, c'est de faire du coton bio. Sauf que le coton bio, ben, ça demande deux fois plus d'arrosage. Et ça vient de loin. Du coup, est-ce que le coton bio est éthique? Ben, je sais pas. À chacun de dire ce qu'il en pense. Hein. Tout le monde aura raison. Mm. Est-ce que faire un vêtement avec du cachemire recyclé, c'est éthique? Ben, sans doute, parce que tu recycles. Mais le cachemire recyclé, ben, c'est des fibres qui sont beaucoup plus courtes. Du coup, ton cachemire, si tu fais du pur, il sera de moins bonne qualité. Il se délitera plus vite, il boulochera plus, parce qu'une matière avec des fibres courtes, ça dégorge. Du coup, tu vas faire quoi? Tu vas mettre un liant, donc des fibres plastiques qui sont longues, du polyester. Et là, du coup, bah, tu reviens vers du matériau fossile et tu perds en partie les propriétés thermorégulantes de ton cachemire et de sa douceur. Du coup, est-ce que du cachemire recyclé à 100% c'est éthique? Ben, je sais pas. Et en fait, c'est que des sujets comme ça. Pareil, quand tu dis, ben, nous, notre envie, c'est d'être un peu des découvreurs de savoir-faire, des espèces d'Indiana Jones moderne où on fait découvrir les savoir-faire français aux japonais, les savoirs japonais aux français, etc. Là aussi, tu te dis, ben, j'entretiens des savoir-faire, je permets à des business de se pérenniser en leur donnant une exposition et en leur apportant du travail, quoi, parce que tu utilises leur savoir-faire dans tes collections. Mais là encore, tu fais des parcours en bateau, tu claques des billets d'avion pour aller les voir. L'empreinte CO2, elle est pas cool, quoi. Mmh. Et en fait, c'est que des sujets comme ça. Et après y avoir beaucoup réfléchi, les seuls deux trucs qui sont vraiment éthiques pour une marque, c'est quoi? C'est le lin. Enfin, une marque française, hein, parce que le lin, en fait, c'est concentré à 80% de la production mondiale en Belgique et dans le nord de la France. Et l'autre truc, c'est la viscose, parce que tu peux en faire à base de pulpe de papier et de pulpe de bois, de manière quasiment infinie, parce que c'est des molécules de cellulose que tu fais reprécipiter. Mais si tu fais une collection de vêtements uniquement avec du lin et de la viscose, bah, ça va être un peu rêche et un peu brillant. Donc, je suis pas sûr que les gens, ils ont envie de s'habiller, ils aient envie de se vêtir avec ça. Mmh. Et du coup, je sais pas s'il y a une réalité business. Mmh. Donc, ce serait peut-être ça la marque éthique, mais je me retombe dans un truc pas très sexy. Mmh.
Tout à l'heure, en off, on parlait de. T'as été aux États-Unis faire un shop tour, je sais pas comment t'appelles ça, hein,
ouais,
un shop tour.
Un retail tour, un retail tour, etc.
Ouais. Alors, c'est quoi les marques qui t'impressionnent vraiment en ce moment, qui t'inspirent et pour lesquelles tu vas aller chercher des bonnes idées?
Moi, il y a des marques que j'adore souvent parce que la mission, elle est très forte et en même temps très intuitive, quel que soit le point de contact où tu te situes dans ta relation avec la marque. Et Outdoor Voices, par exemple, c'est une marque que je trouve géniale. C'est une sorte de complémentaire d'un Under Armour. Là où Under Armour est sur le sport ultra compétitif, sponsorise des sportifs de haut niveau. Et ben en fait, Tyler Heine, la jeune femme qui a monté Outdoor Voices, elle, sa marotte, c'est le sport non compétitif. C'est It's not about winning, it's about showing up. Mm. C'est vraiment ce côté un peu à la Pierre de Coubertin où l'important c'est de participer. De passer, de donner le meilleur de soi-même, passer un bon moment, de partager quelque chose avec d'autres personnes. Et les vendeuses et les vendeurs qui sont dans la boutique sont juste adorables. La cabine d'essayage, il y a Il y a plein de molletons, il y a du fleece au sol, donc quand t'es en chaussettes et en hiver, t'es trop content. Le vêtement, il est super agréable à porter.
Ils ont très
une
douillet.
Ligne... Ouais, ils ont une ligne homme. C'est juste le pantalon parfait quand tu prends l'avion. Ils ont des grandes photos dans la boutique. Plutôt que d'en avoir un million, ils ont trois grandes photos où à chaque fois, t'as trois ou quatre femmes qui ont des physiques, des ethnies, tous différents. Mais c'est pas un truc cliché à la Benetton, tu vois. C'est vraiment... ce qu'est la marque, sa réalité, ses clients, son message. Ouais. Et il y en a qui sont un petit peu fortes, il y en a qui sont toutes fines. Et ouais, ça montre le côté inclusif de cette marque. Tu vois, finalement, il y a peu de moments où le message est communiqué, mais à chaque fois que la marque choisit un mode de communication, elle pousse le truc à fond. Et moi, cette lisibilité chez Outdoor Voices, je trouve ça fou. Et à une échelle de boîte beaucoup plus mature, chez... Lululemon, qui fait des vêtements pour le yoga, tu le retrouves beaucoup aussi. Aux US, j'ai été fasciné aussi par le concept de Nike, je crois sur la 7e avenue, où tu as un espèce d'énorme satellite qui est pendu au plafond sur 6 étages, avec du son-lumière quand tu montes l'escalier qui tourne autour du satellite. À chaque étage, tu as... plein de contenu sur la marque, des éclatés, des chaussures pour comprendre comment c'est fabriqué, des vidéos pour interagir. C'est un concept qui est extraordinaire. Il te faut une heure quoi quasiment pour le visiter. Mmh. Bon après, la rentabilité au mètre carré, je sais pas. C'est quand même beaucoup un outil de branding ce type de boutique, mais le fait d'avoir poussé la vision aussi loin, c'est impressionnant quoi. Ça force au respect quand t'es quelqu'un qui évolue dans ses questionnements sur le branding. Ouais, après il y a vraiment plein de marques de la nouvelle génération qui font des trucs top hein. J'étais chez Glossier, pareil, je suis pas un utilisateur de Boy Bros pour épaissir mes sourcils, mais en fait l'expérience elle est tellement bien faite avec les vendeuses en salopette rose qui quand elles ont pas un contact avec le client elles dansent en attendant qu'on vienne leur parler, le mobilier qui est pink, millennial pink comme elles disent, mais poussé à l'extrême, le fait de pouvoir essayer les produits, d'avoir une espèce de gentillesse ambiante dans cette boutique, j'ai beau pas être un consommateur d'eyeliner en tant que mec de 30 ans habitant en France, mais j'ai surkiffé en fait de passer 15 minutes dans la boutique et d'acheter, enfin d'accompagner quelqu'un qui achetait un truc pour elle quoi.
Trop cool. Et plus proche de nous, est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent sur le marché français, européen, pas forcément dans la mode, mais des choses avec lesquelles tu te nourris?
Ouais, je crois que tu l'as interviewé. Je suis assez très admiratif de ce que fait Ramdan Twani sur l'officine Bully. Dans les concepts que je trouve forts en France, j'en parlais un petit peu, mais nature et découverte, je trouve que c'est quand même assez canon l'expérience. Et d'arriver à mêler un concept où tu viens sur de la découverte sans même savoir ce que tu vas acheter, et à côté une profitabilité et un réseau boutique qui s'est vraiment bien développé de manière saine, je trouve que c'est une performance. Après en France je trouve qu'il y a quand même beaucoup moins de concepts intéressants qu'aux US. Ça se voit qu'on n'est pas vraiment un pays dans le service, qu'on n'est pas un pays de retailers. Il y a encore un vrai truc à pousser. Il y a quelques personnalités inspirantes, des gens comme Marie-France Cohen, que tu as interviewé aussi, que c'est une femme que je trouvais extraordinaire, avec un parcours exemplaire. Voilà, des gens de ce niveau et qui ont mis en pratique leur vision, leur connaissance, il n'y en a pas un milliard sur le marché français. Faut quand même aller beaucoup s'inspirer ailleurs.
Très bien, cool. Écoute, on a déjà, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble, je vais te laisser partir. Hein. On n'a pas tout couvert parce que je pense qu'on pourrait parler des heures et des heures sur toute l'histoire de Bonne Gueule. Mais merci en tout cas pour ton temps, pour tes bons conseils, pour ta gentillesse toujours. Et dernière question, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast? C'est la deuxième fois que je te la pose.
Ouais. je t'en ai un petit peu parlé. J'adorerais écouter Delphine Lemaintier.
Ouais.
Delphine qui est la responsable du fonds Modé Finance 2 chez BPI France. C'est un fonds d'investissement qui est dédié aux entreprises créatives, qui a notamment investi dans Bonne Gueule, Ami, Officine Générale et pas mal d'autres belles histoires. Et Delphine, elle a à la fois la vision bancaire, mais aussi du secteur privé, parce qu'elle vient de là et c'est quelqu'un de très pointu et elle est aussi adorable que pro. Donc, ce serait une super interviewée pour les auditeurs.
Cool. Bah, écoute, merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt.
Salut.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Il n'y a pas de pub sur ce podcast. Entreprendre dans la mode est financé par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette communauté et soutenir Entreprendre dans la mode à partir de 2€ par mois en allant sur patreon.com/entreprendre dans la mode. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.